Bienvenue à toutes et à tous à l'écoute des programmes en français de Radio Prague, des programmes qui commencent tout de suite, comme d'habitude, par un bulletin d'information, un bulletin qui sera le dernier de l'année 2004 sur Radio Prague. Et on commence avec les tsunamis en Asie du Sud-Est et Prague qui envoie en Thaïlande un avion spécial chargé d'aide humanitaire destiné aux régions dévastées dimanche par les raz-de-marée meurtriers. C'est ce qu'a indiqué mercredi à Prague le vice-ministre des Affaires étrangères, Pavel Svoboda. L'appareil doit ensuite rapatrier des touristes tchèques se trouvant dans les régions sinistrées. Un premier groupe de touristes tchèques avait déjà regagné Prague mardi en début de soirée à bord d'un avion de la compagnie CSA en provenance de Colombo. Plus d'informations dans un instant avec Alain Stivinski. La police tchèque a inculpé mercredi 7 supporters du Sparta Prague accusés d'avoir tenu des propos antisémites en marge d'un match du championnat national de football contre le Baník Ostrava. Convaincu grâce à un enregistrement vidéo, la porte-parole de la police d'Ostrava a indiqué que les 7 hommes âgés entre 19 et 40 ans risquaient jusqu'à 3 ans de prison. La bourse de Prague a atteint un nouveau record. Ce mercredi, la bourse de Prague a clôturé en hausse, établissant un nouveau record historique. L'indice PX50 gagne en effet encore plus de 1% et dépasse maintenant la barre des 1030 points à 1030,9 points exactement. Le dramaturge Václav Havel et l'auteur-compositeur-interprète Lou Reed, ancien membre fondateur du groupe Velvet Underground, se produiront ensemble sur la scène du théâtre Schwanda le 10 janvier prochain. Les billets pour cette représentation spéciale qui se tient dans le cadre des rencontres scéniques organisées depuis mai dernier dans le théâtre Schwanda, les billets donc ont tous été vendus en moins de 3 jours. On passe au sport maintenant avec du hockey sur glace et la Coupe Spengler qui se joue à Davos en Suisse. Les Tchèques du Sparta Prague se sont qualifiés ce mercredi pour la finale de la 78e édition de cette Coupe en battant le Canada par 4-2. Les Tchèques ne connaîtront leur prochain adversaire que dans la journée de jeudi au terme de leur match contre l'équipe locale de Davos. On termine ce bulletin avec la météo. Des températures maximales de 0 à 4 degrés en plaine, moins 3 degrés en altitude et un ciel partiellement dégagé avec de faibles chutes de neige. Telles sont les prévisions pour l'avant-dernier jour de l'année 2004 en République tchèque. Et c'est là-dessus que se termine notre bulletin d'information. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable écoute de la suite de notre programme. C'est Alena Gebertova que vous retrouvez dans un instant pour les derniers faits et événements en République tchèque de cette année 2004.
Faits et événements en République tchèque. Alena Gebertova.
La République tchèque organise son aide à la région sinistrée de l'Asie du Sud-Est et espère obtenir des nouvelles des personnes qui sont toujours portées disparues. La fin d'année est toujours une belle occasion de dresser des bilans. Aujourd'hui, nous allons porter un regard sur les événements majeurs qui se sont produits sur la scène politique tchèque en 2004. Et nous ajouterons une évaluation politique plutôt optimiste due à l'un des jeunes ministres chargés des affaires économiques. Nous vous ferons également écouter l'extrait de l'un des programmes que nous avons préparé pour vous pour le week-end prochain. Le bilan de la catastrophe en Asie du Sud-Est devient de plus en plus lourd. Jusqu'à maintenant, selon les autorités, on ne déplorerait pas de victimes de la République tchèque. L'aide du monde entier s'organise et la Tchéquie ne reste naturellement pas à l'écart. Alain Slivinski.
Il est vrai, certes, que les autorités ne possèdent aucune information sur des éventuelles victimes tchèques du séisme qui a ravagé l'Asie du Sud-Est. D'un autre côté, on est sans nouvelles de plus de 250 touristes tchèques qui passent leurs vacances de fin d'année dans la région. Les premiers rescapés de la catastrophe sont arrivés par la ligne régulière de la compagnie aérienne CSA ce mardi après-midi. En dehors de leurs proches, le ministre des Affaires étrangères, Cyril Svoboda, les attendait. Ces personnes sont encore sous l'état de choc et je me suis limité à les accueillir dans l'avion par les haut-parleurs de l'aéroport, à leur souhaiter la bienvenue en République tchèque. Nous avons tout fait pour qu'elles reviennent, comme nous le ferons pour tous les autres touristes, en apportant aussi une importante aide humanitaire. Parmi les premiers rescapés tchèques, il y avait aussi Alena Tselanova.
Cela a commencé à 9h30 et les vagues ont déferlé jusqu'à 1h de l'après-midi. C'était terrible. À la réception de l'hôtel, on nous a dit de fuir. Nous avons donc fui, mais c'était vraiment horrible.
Lors d'une conférence de presse ce mercredi matin, le vice-ministre des Affaires étrangères, Pavel Svoboda, n'a pas voulu confirmer que des citoyens tchèques seraient parmi les victimes du séisme. Il n'exclut pourtant pas une telle éventualité, mais a donné aussi certaines précisions sur la situation des blessés tchèques en Asie du Sud-Est. Pour l'instant, nous comptons les blessés qui ne sont pas nombreux, heureusement. Nous avons des citoyens qui sont hospitalisés en Thaïlande, 3 avec des blessures vraiment plus graves, des fractures ou des plaies profondes. Après la conférence de presse, Pavel Svoboda a confirmé l'envoi d'un appareil spécial de l'armée tchèque en Thaïlande, dans la capitale, Colombo. À l'aller, jeudi matin, il transportera de l'aide humanitaire. Au retour, il prendra en charge des touristes tchèques qui veulent regagner le plus tôt possible leur patrie. L'équipe de secours de Liberec, Hand for Help, qui avait déjà été en mission lors du tremblement de terre de Bam, en Iran, part pour l'Asie du Sud-Est tout de suite après le Nouvel An. Le groupe est composé de 20 personnes, médecins et personnel médical, et devrait ouvrir un hôpital de campagne dans l'un des pays du Golfe du Bengale. Le départ en mission a été confirmé par le chef de l'équipe de secours, Jaromír Dolanský. L'objectif de notre mission devrait être fixé par le ministère des Affaires étrangères, avec lequel nous coopérons étroitement. Dans le cas contraire, nous pensons choisir le Sri Lanka ou l'Inde. Cela est dû au fait que ces pays sont parmi les plus dévastés et que la reconstruction de l'infrastructure locale détruite pourrait durer assez longtemps. L'aide humanitaire continue à être organisée aussi par les associations comme l'Homme en détresse, la Charité ou autres, qui organisent surtout des collectes de moyens financiers.
Était l'année 2004 pour la République tchèque. Jarka Gisublova a choisi pour vous les plus importants événements ayant marqué l'année qui se termine.
Le plus grand événement de l'année 2004 a incontestablement été l'entrée de la Tchéquie dans l'Union européenne le 1er mai dernier. Or, le 1er janvier, dans son discours du Nouvel An, le président Václav Klaus a déclaré que par son entrée, la République tchèque perdrait sa souveraineté formelle et beaucoup de ses affaires internes seraient décidées à Bruxelles. L'euroscepticisme de Václav Klaus se manifestera encore à plusieurs reprises. N'empêche que le parti dont il était le fondateur, l'ODS, sortira victorieux des premières élections au Parlement européen. Mais n'anticipons pas et considérons d'autres événements par ordre chronologique. Le 28 janvier, le Sénat approuve l'envoi de plus d'une centaine de soldats professionnels en Afghanistan dans l'opération Liberté immuable. Il s'agit de la première mission de soldats tchèques dans une opération militaire directe depuis la fin du deuxième conflit mondial. Le 18 mars, la Tchéquie fête le 5e anniversaire de son entrée dans l'OTAN. Dans le même temps, l'ambassade américaine à Prague devient le lieu de manifestations organisées à l'occasion du premier anniversaire du début de l'opération militaire en Irak. Quelques jours plus tard, le 11 avril, 3 journalistes tchèques, dont Vít Poranka de la radio tchèque, sont enlevés et pris en otage en Irak. Heureusement, ils sont relâchés 5 jours plus tard. Le 30 avril, les plus hauts dirigeants tchèques se réunissent au château de Prague à la veille d'un événement historique. Le 1er mai, la Tchéquie devient en commun avec 9 autres pays membres à part entière de l'Union européenne. Les 11-12 juin, les premières élections européennes ont lieu dans le pays. Les 24 eurodéputés tchèques siègent pour la première fois à Strasbourg, au Parlement de l'Europe à 25. Entre-temps, la crise gouvernementale dans le pays s'approfondit. Le 26 juin, Vladimir Špidla renonce à ses fonctions de premier ministre et chef de la social-démocratie. Son gouvernement démissionne. Il est remplacé par Stanislav Gross. Le cabinet sortant approuve encore la candidature de Vladimir Špidla au poste de commissaire de la nouvelle Commission européenne. Le 4 octobre, à la veille de l'anniversaire de la chute du mur de Berlin, le chancelier allemand Gerhard Schröder arrive à Prague. Il rassure en déclarant que son cabinet ne soutiendra pas les plaintes des Allemands des Sudètes déposées à Strasbourg. Le 29 octobre est une autre date historique. Le chef de la diplomatie et le premier ministre apposent à Rome leur signature en bas du texte de la première constitution européenne, après que le chef de l'État ait refusé de le signer. Au mois de novembre, la Tchéquie fête le 15e anniversaire de la révolution de velours, la fin de l'année à l'heure d'un nouvel événement de portée historique. Le cabinet donne le feu vert à l'ouverture des négociations sur l'accès de la Turquie à l'Union européenne.
Et voici encore quelques mots à propos de l'état de l'économie tchèque. Martin Jan, son parti vice-premier ministre chargé de l'économie, est l'un des plus jeunes membres du cabinet de Stanislav Gross. Sur les pages du quotidien Rude Pravo, il présente sa vision de l'économie tchèque. Le titre de son interview est éloquent. L'économie se porte mieux que ne le voit Klaus. Selon Martin Jan, la productivité du travail, qui se présente comme le principal indice de la santé économique d'un pays, s'est considérablement accrue. Une façon de dire que le climat économique dans le pays est favorable. Deux autres bonnes nouvelles, le déficit de la balance du chiffre d'affaires va diminuant, tandis que les exportations des produits avec une TVA élevée augmentent. Le ministre Jan indique d'autres caractéristiques positives de l'économie tchèque, qui touchent directement les citoyens. Les salaires ont augmenté cette année de près de 6% et le taux d'inflation ne dépasse pas 3%. Cette dernière donnée signifie que les économies de la population se dévalorisent moins que celles des pays voisins. Et le taux de chômage, il se stabilise, se situant en novembre dernier au-dessous de 9%. Même s'il s'agit d'une donnée favorable comparée à certains pays voisins, Martin Jar assure que le gouvernement tchèque fera tout pour le réduire encore davantage. Jana Bouchková est l'harpiste tchèque la plus connue. Soliste, elle a remporté de nombreux succès dans le pays et à l'étranger. Aujourd'hui, à l'âge de 34 ans, elle a décidé d'élargir sa carrière de soliste en devenant membre de la Philharmonie tchèque, premier corps philharmonique du pays. Pourquoi ? La carrière d'une soliste est incertaine, explique-t-elle. Et d'ajouter, le poste de la première harpiste de la Philharmonie tchèque est une grande occasion pour moi de connaître de nouvelles compositions, de découvrir d'excellents interprètes et chefs d'orchestre. Pour Jana Bouchková, la harpe est l'un des plus importants instruments solo dans un orchestre. Elle apprécie aussi le fait que la Philharmonie tchèque soit un orchestre d'excellente qualité, jouissant de longues traditions et d'un grand renom dans le monde. Et devenant membre de la Philharmonie tchèque, Jana Bouchková, mère de deux enfants, ne veut pas pour autant renoncer à ses concerts individuels. Elle souhaite réconcilier les deux activités. On notera que la harpe n'est plus l'unique instrument féminin dans la Philharmonie tchèque. Si récemment encore l'orchestre a été réservé presque exclusivement aux hommes, il compte dorénavant plusieurs femmes. Et avant la fin de ce fait événement en République tchèque, je vous propose d'écouter un extrait du programme spécial préparé pour ce dimanche, le magazine de la culture par Magda Segertova.
Anna Pravdova est historienne de l'art. Attachée à la France, elle se penche sur les liens entre les cultures tchèques et françaises. Depuis quelques années, elle s'intéresse notamment aux peintres et sculpteurs tchèques ayant vécu et travaillé dans les années 1920 à Paris. aux maîtres renommés, à savoir František Kupka, Joseph Schima, Otakar Kubin ou Jan Zrzavi, mais aussi et surtout à ceux qui ne sont aujourd'hui connus que du public initié, comme Georges Kars, František Zdeněk Eberl, Zdeněk Přibyl ou Věra Jičínská. Retour donc dans les années 20 avec Anna Pravdová.
C'était une période, une espèce de l'âge d'or des relations franco-tchèques. C'est bien connu, les échanges entre les avant-gardes. C'était la période où le plus de peintres tchèques, je crois, allaient travailler en France, attirés par la réputation de Paris comme ville internationale et accueillante et terre d'accueil pour les peintres étrangers. Donc il y a beaucoup de peintres tchèques qui ont décidé de partir aussi, même si déjà avant cette période, il y a eu déjà un premier départ déjà dans la deuxième moitié du 19e siècle. Il y a beaucoup de peintres qui sont déjà partis en France. Mais dans les années 20, beaucoup d'étudiants, l'école des Beaux-Arts par exemple, sont partis. Il y a eu des programmes d'échange. Il y a eu même František Kupka était chargé de s'occuper des boursiers tchèques qui sont partis de l'Académie des Beaux-Arts. Il les accueillait chez lui et leur donnait des conférences où il essayait de les introduire à la culture française. Donc ça, c'était, je crois, unique dans l'histoire de l'Académie des Beaux-Arts, avoir une personne détachée sur place qui s'occupait des boursiers. Il y a eu beaucoup, à part les étudiants, bien sûr, des peintres déjà renommés. Il y en a eu beaucoup qui sont partis à Munich, comme Georges Kars, et de là, ils sont partis à Paris. Il y en a d'autres qui sont partis directement, comme Joseph Schima, et des architectes, comme Patrick Forstein, etc., et qui sont partis d'abord pour rester quelques années. Certains ont resté toute leur vie, justement, comme Joseph Schima, et puis d'autres qui ont pris la nationalité française, comme Kubin aussi, etc.
Est-ce que c'était un groupe spécifique de peintres tchèques qui se dirigeait vers Paris, qui était attiré par l'art français?
C'est difficile à dire, non, je ne crois pas. C'était des peintres très différents, mais tous attirés par cette ville, par la peinture française. Et ils ont chacun été attirés par autre chose. C'est intéressant de voir, certains ont essayé de se mêler avec les peintres contemporains, avec l'école de Paris, et rencontrer des artistes vivants. Et certains, au contraire, ont passé le temps au Louvre à copier les maîtres anciens, etc. Donc Paris les attirait par la modernité et aussi par la richesse des collections de l'art ancien. Et c'était très personnel pour chacun.
Les amants de Paris couchent sur ma chanson. À Paris, les amants s'aiment par leur façon. Les refrains que je leur dis, c'est plus beau que les beaux jours. Ça fait d'être un printemps et le printemps fait l'amour.
C'était le tour d'horizon de l'actualité tchèque. Notre programme en français se poursuit.
Chapitre de l'histoire tchèque. Jarka Gisubelova.
Un épisode peu connu de l'histoire tchèque, le séjour en Bohême du roi de France, Charles X. En effet, après la révolution de juillet 1830, Charles X abdique et prend le chemin de l'exil. Après un séjour en Angleterre, il trouve un asile à Prague. Les documents historiques nous apprennent que grâce à lui, deux autres Français célèbres séjournent à Prague, le géologue Joachim Barrande et le poète écrivain romantique François René de Chateaubriand. Charles X, beau-frère de Louis XV exécuté, monte sur le trône à la mort de son frère Louis XVIII, renouant avec la tradition de l'ancien régime. Face à l'attitude autoritaire du roi, le peuple de Paris se soulève en juillet 1830 et Charles X abdique. Sa chute marque la fin du règne des Bourbons en France au profit de Louis-Philippe d'Orléans. Charles X prend le chemin de l'exil et s'installe d'abord à Édimbourg. Grâce au lien assez étroit avec les Habsbourg, il reçoit l'invitation de s'installer à Prague, qu'il accepte avec plaisir. En 1832, l'empereur autrichien François Ier l'accueille au château de Prague, qui est à cette époque une institution militaire et le lieu de séjour du vice-gouverneur. Charles X arrive au château de Prague le 25 octobre 1832, entre 17 et 18 heures, et s'installe dans les chambres numéro 1 à 9 au deuxième étage. D'où proviennent ces données aussi exactes? C'est grâce à la méticulosité excessive avec laquelle la police autrichienne dressait les déclarations de séjour qu'on est au courant des moindres détails relatifs au séjour pragois de Charles X et sa suite. Ainsi, on apprend qu'avec lui s'inscrivent au séjour son fils aîné, Louis-Antoine, duc d'Angoulême, et son épouse Marie-Thérèse Charlotte, fille du roi Louis XVI et Marie-Antoinette, et sa fille Louise-Marie. Des liens d'amitié se créent rapidement entre Charles X et la noblesse tchèque, dont Louis, le prince de Rohan, devient son ami le plus proche. Les Rohan, eux aussi, des immigrés, sont venus s'installer en Bohême protestante après la Révolution française. Leur château de Sychrov en Bohême du Nord, trahissant les influences françaises, et les connaisseurs y remarquent une inspiration par le château de Josselin en Bretagne, devient lieu de séjour fréquent de Charles X. Jusqu'à aujourd'hui, on montre à Sychrov aux visiteurs les chambres qu'il habitait. Lors de son asile pragois, Charles X, connu auparavant pour sa conduite légère et ses dépenses inconsidérées, n'est pas quant à lui trop exigeant, à l'opposé de sa cour, qui réclame les mêmes services et soins auxquels elle était habituée à Versailles. L'inspecteur du château de Prague, Arnoche Rodolphe, qui a la charge de la suite de l'ancien roi de France, en écrit dans ses mémoires. Combien il était difficile de satisfaire à ses exigences. Charles X devient très mélancolique. Sur le chemin de la France, l'ensemble de l'argent familial s'est perdu, ce qui l'a beaucoup indigné, car il était habitué à ce que les repas lui soient servis sur une vaisselle en argent. Des nouvelles venant de France sur les préparatifs de l'assassinat de son fils ne font qu'approfondir sa dépression. Il ne sort que rarement, jamais, au centre de Prague. Ses promenades se bornent au jardin sous le château. De temps en temps, son fils l'oblige à faire une promenade en berline. Pour que le stéréotype ne devienne pas insupportable, toute la cour organise des voyages à Teplice et à Karlovy Vary, stations thermales à l'ouest du pays. Charles X reçoit beaucoup de visites, notamment celle du poète François-René de Chateaubriand. Lors de sa première venue en mai 1833, le château de Prague le surprend énormément. Chateaubriand se croit au Vatican ou au temple de Jérusalem et écrit alors de Prague qu'elle était une ville triste, obscure et tremblée, mais qui la ravit par sa mystique. Charles X est un passionné de... mais il n'aime pas être l'hôte du chef de la chasse, mais le chef. Il chasse dans les forêts de Sychrov chez les Rohan, à Urginieves près de Prague, un domaine de Liechtenstein, et à Brandis où est réfugiée sa belle-fille Caroline Louise après la mort de son fils Charles. Les Bourbons restent à Prague jusqu'à mai 1836. Ils seraient certainement restés plus longtemps s'ils n'avaient dû quitter le château de Prague à chaque fois que la cour de Vienne venait y séjourner. En pareil cas, ils sont obligés de déménager à Bouchtehrat, splendide château des archiducs de Toscan, mais les déplacements les gênent. Ils cherchent même un domaine où ils pourraient s'installer durablement, mais finalement Charles X y renonce. Le couronnement de Ferdinand V a été la goutte qui a fait déborder le vase. Charles X et sa suite quittent définitivement Prague. À České Budějovice, où il se réfugie, Charles attend que son financier achète le château de Kirberg en Basse-Autriche. Or, entre-temps, une épidémie de choléra éclate. Charles X se rend à Linz, puis à Goritz, où il meurt le 6 novembre 1836, des suites du choléra. Il est inhumé dans la tombe des comtes Turnes. Thank you. propos de Joachim Barrande, dont je vous ai parlé au début. Barrande a été le précepteur de petit-fils de Charles X, Henri de Chambord, et en tant que tel, il a accompagné l'ancien roi à Prague. Il ne l'a pas quitté même après le départ des Bourbons. La Bohême est devenue sa seconde patrie. Il y passe la plus grande partie de sa vie et y effectue ses recherches paléontologiques centrées sur les fossiles de la période silurienne et dévonienne, recherches qui le rendront mondialement célèbre. En son honneur, le massif qui s'étend dans la région de Prague et où il a découvert des empreintes de trilobites fossiles a été appelé Barrandéum, et tout un quartier qui se trouve non loin d'ici, tout comme les studios cinématographiques, se nomme Barrandov. C'est tout dans cette émission. Merci à Yarka Fikarlova à la réalisation. Merci à vous tous de votre attention. Au revoir et à très bientôt sur Radio Prague.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9880 kilohertz, at 1700 hours on 5930 and 15710 kilohertz, at 1800 hours on 5930 and 9415 kilohertz, and at 2100 hours on 5930 and 9430 kilohertz. Listeners in Northern Europe can hear us at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 15710 kHz. In West Africa, you can hear us at 1000 hours on 21745 kHz, at 1700 hours on 5930 and 15710 kHz, and at 2230 hours on 5930 and 7345 kHz. In East Africa, tune in at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz, and at 1400 hours on 21745 kHz. Listeners in the Middle East can tune in at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz, and at 0430 hours on 9885 and 11600 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 5930 and 9415 kHz. In Southern Asia, you can listen at 1000 hours on 21745 kHz and at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Eastern Asia can tune in at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Southwest Asia can tune in at 0430 hours on 9885 and 11.